remarque dans les cendres volcaniques.
Comme on dit, de puzzolane.
Puzzolane.
Et c'est là que la vigne pousse, que tout pousse.
Oh oui.
Mais du coup, on a l'impression de marcher dans le sable, quoi. Pour pas dire dans la poudreuse. On fait un pas, on a l'impression de reculer en même temps.
Bon, tu sais, ce n'est pas les cendres volcaniques, mais c'est les neiges capverdiennes. En France, on a des neiges blanches, mais ici, on a des neiges noires.
Ah, ça y est.
Si loin, si proche, le rendez-vous du voyage.
C'est le cratère principal.
Voilà.
Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
Cet volcan, c'est le chef de caverne, le point plus haut de caverne. Juste en face ici, vous voyez Ida Santiago, là-bas, juste en dessous des nuages. Et quand vous arrivez au sommet du volcan, là maintenant vous connaissez caverne. Les gens qui arrivaient au caverne n'ont pas monté au sommet du volcan, ils n'ont pas connaissé caverne.
Bonjour à tous, c'est à 2800 mètres d'altitude que débute ce voyage à la découverte d'un impétueux volcan qui tutoie les nuages et domine l'archipel du Cap Vert, situé au large du Sénégal dans l'océan Atlantique. Direction donc l'île de Fogo, qui tire son nom de sa montagne de feu, son volcan. Avec Hortense Vol, partie pour nous à l'ascension du Pico des Fogo, mais surtout à la rencontre de ceux qui vivent à l'ombre du volcan, gigantesque et majestueux cône noir. Car depuis plus d'un siècle, des hommes s'accrochent aux parois abruptes de celui qu'on surnomme le Grand Homme, dernier volcan en activité du Cap Vert. Des hommes qui, malgré les éruptions et l'isolement, ont décidé de vivre dans ce bout du monde, aux allures de lune noire, dans le centre de l'ancien cratère, la caldeira. Ce décor de lave et de cendres attire aujourd'hui les touristes et trekkers du monde entier, dont une majorité de Français. Et pour rejoindre Chad à Caldera, il faut monter à bord d'un taxi collectif, depuis São Filipe, la capitale de Fogo, et suivre des routes sinueuses, puis des pistes caillouteuses, certaines barrées par des coulées de lave. C'est ce qu'a fait Hortense dans le minibus d'Adrien Moumontron, un enfant de la Caldera.
Je peux monter devant avec vous?
Oui.
Ah ben, ça se remplit là, le taxi collectif. Il y a beaucoup de femmes, elles reviennent du marché?
Oui, elles viennent du marché. C'est l'autre qui vient de l'hôpital, c'est l'autre qui vient à la banque. On va partir tout de suite. J'ai fait collectif Jean d'Escalera sans Philippe tous les jours. Donc c'est 52 km de route.
52 km.
Oui, c'est un piste qui c'est 12 km. Les autres c'est pavé et goudron.
En fait on a la mer à notre droite.
Oui.
Et la Bordera à notre gauche.
Oui.
Au long, on est parti de São Filipe, donc qui est à l'ouest de l'île de Fogo. Et là on descend vers le sud avant de remonter vers le nord de l'île.
C'est vrai, c'est vrai. Chien d'Escalera, c'est de part du nord de l'île de Fogo. Pour nous, Chien d'Escalera, c'est notre paradis. Pour nous qui vivons là, Chien d'Escalera, c'est notre paradis. Regarde, là, c'est le grand pico.
Là, on voit le grand pico, le grand pico.
Lui, volcan. C'est patron de l'île de Fogo. Lui, c'est notre ami. Pourquoi? C'est trois éruptions consécutives. 51, 95 et 2014, mais n'est pas de mort. Regarde, c'est une bonne chance. Hein. Lui, c'est notre ami. Ici, nous allons entrer à la station du parc naturel de l'île de Fogo. Regarde, là, c'est bienvenue au parc naturel de l'île de Fogo. Bienvenue à la parc naturel de l'île de Fogo.
En fait, c'est un désert de... Un désert de cendres, un désert de roches,
oui.
Différentes couleurs de noir, de brun. Il y a aussi des petites touches de vert par-ci par-là.
Oui, oui.
Et là, on est déjà dans la caldeira.
Oui, tout ça, c'est le chat d'Escalera. Bon, vous va voir. Ça, c'est une coopérative de vin qui s'est détruite par coulée de lave d'éruption en 2014.
Effectivement, là, on voit que la lave est rentrée par les fenêtres, par les portes. On voit plus que le toit, en fait, de l'ancienne coopérative viticole.
Regarde, ça, c'est l'ancienne église catholique. Ça a détruit là, ils ont fait un autre là. Et l'autre blanc.
Ah oui, on voit juste le toit pareil.
Oui.
L'entrée de l'ancienne église.
C'est vrai.
Et ils sont en train de reconstruire une nouvelle par-dessus.
Oui, là c'est en blanc, c'est l'église adventiste. C'est la même. Tout ça s'est détruit là.
Et donc là on arrive à porter là. En fait, c'est on voit que c'est en construction.
Oui, c'est en construction. Ouais.
Donc il y a des gens qui reconstruisent des maisons traditionnelles et puis d'autres qui construisent en béton. Il y a un mélange de, un mélange d'habitats.
Oui.
Ok.
Ça c'est Sonia.
Ah, je suis arrivée dans ma pension. Bon, merci beaucoup Adriano.
De rien,
c'était
vous
un plaisir
aussi.
De faire cette route en votre compagnie.
Merci beaucoup.
En arrivant à 1700 mètres d'altitude, à Portela, l'un des deux villages de la caldeira avec Bangaera, on est immédiatement saisi par la force des éléments. Le vent souffle fort ici, et le ciel est bas ce jour-là. D'un côté, le volcan, âpre et souverain, de l'autre, une immense falaise qui enserre les maigres cubes en parpaings gris qui font office d'habitation. Les vastes coulées de lave noire qui ont recouvert l'ancien village en 2014 nervurent le sol et évoquent des racines ou les plis d'une peau d'éléphant. Curieuse vision du paradis, avec pour seule touche de couleur, la petite école au mur peint, la nouvelle église adventiste au toit bleu, la maison rouge et flambant neuve du parc national et les toits coniques blancs des Funcos, ces maisons traditionnelles ensevelies qui émergent ici et là de la roche. Dans ce paysage hors du commun, à la fois fascinant et désolant, on pourrait se dire qu'il n'y a pas âme qui vive. Et pourtant, depuis la dernière éruption, 420 habitants sur 1250 sont revenus vivre et travailler dans la caldeira.
Cise. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu es en train de faire?
Ah, ça c'est du café. Café de moustère que j'y prépare pour boire un pot.
Mmh.
Oui.
Avec un pilon comme en Afrique, tu es en train d'écraser les grains de café.
Oui.
Tu fais ça tous les jours?
Non, quand j'ai des clients.
Parce qu'avec ton mari, vous avez une pension aussi ici pour accueillir les touristes.
Oui.
Vous, c'est
oui.
Tout nouveau.
C'est pour commencer. Ah. Oui.
Ça fait combien de temps alors que tu es ici?
10 ans. Je suis déjà mariée. Je suis mariée ici.
Tu es née où?
Saint-Philippe.
À Saint-Philippe,
si.
La capitale.
Oui.
Tu t'es mariée et tu es venue vivre ici. Tu as quitté São Filipe.
Oui. Quand j'y viens, j'ai dit non, ici c'est pas joli, j'aime pas. Mais quand j'ai passé beaucoup de temps ici, j'ai dit non, je vais passer tout le temps ici. J'aime. J'aime les calderas.
Qu'est-ce que tu aimes ici?
Toutes les choses. Ici, il est calme. J'ai travaillé à mon magasin, j'ai fait quelques artisanats.
La ville te manque pas?
Non. Non.
Et même l'éruption du volcan en 2014, ça t'a pas effrayé?
Non, quand il fait éruption, j'ai sorti avec mes enfants, j'ai resté à la monastère. Mais quand toutes les choses déjà c'est calme, je vais retourner pour habiter à notre village. Oui.
Ça sent bon, hein? Ça y est, c'est prêt.
Et le charbon, on a l'impression
qu'il est bon, le café, hein? Il est goûteux, mais il n'est pas trop fort.
Ouais. Il pousse dans la lave. Pareil que Churchill, mais il adorait ce café Churchill.
Churchill.
C'est une référence. Non, c'est vrai je crois qu'il contient moins de caféine. Et puis, dans la lave, il est. C'est comme le chou, la carotte. Il n'y a pas le même goût qu'en Europe. Quand on mange une carotte ici, un roman à un goût extraordinaire. Ça. Parce qu'il pousse dans la lave. Et là, dans la lave, beaucoup de minéraux. Donc c'est nécessaire. Ouais, c'est, ici, c'est. Tout est différent. Hé,
je m'appelle Daniel Païta. Je suis né à Lyon, à Croix-Rousse, mais j'ai vécu toute ma vie près de la Suisse. Et j'ai découvert le Cap-Vert par un ami en 98. Puis après, deux ans plus tard, on est venu ici. Et j'ai découvert Fogo. Et depuis là, je viens régulièrement. Quoi. Je suis venu à différentes époques pour voir comment c'était. Voilà. Ici, il y a un esprit différent d'ailleurs des autres îles. C'est ça le truc. Ici, comme c'est fermé, t'es contraint à avoir des liens. Si t'as pas de liens, tu restes pas. On est habitué à une sorte de marche forcée en France. Ce qui fait que résultat, c'est qu'on prend pas le temps de se poser. Moi, j'ai appris maintenant. J'ai appris à me poser. C'est pour ça que je peux rester 2 mois, quoi.
Et du coup, tu t'es fait des amis, tu loges toujours au même endroit.
Ouais, c'est des amis. Assindo, pour moi, je le considère comme mon fils. Quand je l'ai connu, il avait 17 ans. Et moi, j'avais 50 balais, ou pas, toi, presque 50 ans, 48 ans. Donc, c'était des gamins pour moi. Et puis, moi, je les ai vus évoluer. Il n'y avait rien. Après, ils ont une maison, après deux maisons, après, ils ont. Je les ai vus évoluer, j'ai apporté du matériel, je leur ai donné des coups de main, je leur ai appris un peu d'escalade, machin, et tout, voilà, c'est une sorte d'échange, quoi. Ce qui fait que, bon, il y a des liens, quoi. Puis, Assindo, il vient chez moi,
en Ardèche,
en France, je l'ai emmené en montagne, je sais.
Mais j'aimerais bien le rencontrer.
Assindo, il est là-bas, ouais. Faut aller le voir, là-haut.
C'est par où, alors, du coup? C'est pas, il faut remonter la...
Je vais te montrer. Il va remonter le café, à mon avis, là, maintenant. Il m'a dit qu'il fait le café. Ta maison, là, tu vois. C'est le chef de ça, moi. Il est, tu vois, la maison qui est derrière, là. Attends, celle de tension.
Ah, avec les baies vitrées.
Les baies vitrées, là.
En arrondi, là, comme ça. Ah, bah, je suis juste à côté. Oui, je vais aller le voir. C'est magnifique, ces pierres grises, là.
Ça, c'est du basalte.
Basalte, qui contraste avec, avec la falaise qui se dresse derrière nous, qui est ocre.
C'était un immense volcan, avant.
Et la falaise, du coup, donc on appelle la bordera, qui encercle toute une partie de la caldera.
C'est le principe d'une caldera, c'est un terme portugais, mais qui est de en géologie. Ça veut dire que c'est ces volcans, comme une marmite, qui ont explosé. Le Cap-Vert est un point chaud et les plaques tectoniques bougent. Et ça, c'est du basalte. Hein. C'est-à-dire, c'est ce qu'il y a sous nos pieds. C'est le magma qui sort, qui est sorti. Magma qui est sorti. C'est tout.
Je m'appelle Irosi. Je suis né ici à Chandas Calderas. J'ai grandi ici. J'habite là.
Le volcan ici, le grand pico, on l'appelle le grand homme. Est-ce qu'il y a des croyances? Est-ce que les gens ici lui prêtent des pouvoirs?
Non. Pico, il y a quelqu'un qui dit c'est notre ami, c'est notre père, mais on ne croit pas que c'est un dieu pour nous. Nous, les dieux, c'est Dieu. C'est pas les dieux de nature.
Et est-ce qu'il y a des histoires liées au volcan qui se transmettent de père en fils, de génération en génération?
Ça, c'est plus les éruptions. Par exemple, ma grand-mère, elle a conté l'éruption de 1951. Je peux raconter à mon fils. C'est comme ça. Comment les gens habitaient avant ici, comment les volcans font l'éruption. C'est comme ça qu'il y en a.
Toi, tu as quel âge, Rosie?
Moi, j'ai 31.
Donc, tu as connu...
L'éruption de 1995.
T'étais tout petit?
J'ai 8 ans avant.
Ouais.
Mais j'y souviens parce que c'était 12 avril de 1995. Ça commence l'éruption à 11h30 du soir. C'est juste un son à cause de tremblement de la terre.
Ah, personne ne vous avait prévenu?
Non. Ouais. Vous n'avez pas de surveillance ici. Un son à cause avec le tremblement de la terre. Et après, on descend à pied, on reste 3 jours dans la forêt. Et après, on descend à Musteros. C'est là que les gens restent 6 mois. dans la tente.
Les habitants de la caldeira, ils sont restés 6 mois après l'éruption de 95.
À San Felipe.
À São Felipe.
Et Mosteiros aussi. Et après, il y a quelqu'un qui, parce que le gouvernement promet de nous aider à donner à chaque famille à maison à Montigrande et à Chadafourne. Moi, j'ai resté 3 ans là-bas parce que...
À Montigrande,
parce que j'ai fini l'école primaire là-bas. Mais ma mère, elle a remonté à Chandas Calderas parce que là-bas, elle n'a pas de travail, pas de chambre pour travailler l'agriculture. Elle a décidé de remonter. Et moi, j'ai fini les études là-bas. J'ai remonté à Chandas Calderas en 2000. Et en 2014... Et il y a les nouvelles
éruptions
qui arrivent.
Mais là, vous avez été prévenu.
Là, nous avons des stations météo qui contrôlent les éruptions, mais ça ne marche pas bien. On ne savait pas 3 mois avant, mais on sent un jour avant. Samedi soir. Tous les 5 minutes, il y a des tremblements de la terre qui fait brrr, très fort. Et ma femme, elle a dit, je vais rester avec chez ta mère. Parce qu'on sent toutes les choses qui bougent dans la maison. Moi, j'y restais là jusqu'à 8 heures du matin avec la chambre qui bouge très fort. Et là, j'y réveille. Il y a quelqu'un qui dit, c'est le volcan qui va faire l'éruption. J'ai dit non, mais c'est pas maintenant. Et là, à 10h40, les petits volcans commencent à la première explosion. Parce que les volcans...
Ça, c'était le 23 novembre. Donc, c'était un dimanche. Le petit picot s'est réveillé.
Ouais. Et l'éruption durait 77 jours. Ça fait 2 mois et 17 jours en activité. Et nous, les premiers jours, la lave commence à couler très lentement. Ça fait 4 mètres et demi par minute. Mais la dernière jour, 25 mètres par minute. Et cette coulée de lave, c'est plus liquide. Ça coulait en dessous de première lave qui arrivait dans les villages. Et là, ça sortit à côté du village. Moins de 24 heures, on perd deux villages, Portela et Bangaira.
Ah oui, donc la lave, elle a mis 12 jours pour arriver jusqu'ici. Mais après, en 24 heures, elle a détruit les deux villages.
Ouais.
Et toi, tu es resté jusqu'à ce que la lave arrive ici, à Portela.
À Portela, ouais.
Et ensuite, tu n'as pas eu d'autre choix que de partir.
J'ai pris tous les mobiliers dans la maison, j'ai descendu à Saint-Philippe.
Tu as pris tous les meubles, toutes les affaires, mais à pied, avec des ânes, avec des charrettes, vous aviez...
Tous, ouais. C'est dur, mais c'est comme ça qu'ils ont passé. J'ai revenu à Chandas Calderas en 2016, avec les enfants, avec 6 aussi. Parce qu'avant, nous n'avions pas l'école primaire, pas les centres de médecins. 2 ans à Saint-Philippe et à Mosteiros, sans le travail, rien à faire, on a décidé de revenir à Chien. On est arrivé ici, on met toutes les affaires ici, et on dormit ensemble avec les enfants dans le même matelas, tous dans une chambre. Et là, on commence à... économiser quelques argent, commencer à construire ça.
Ah oui, je cherchais de l'eau ici. C'est de l'eau potable, comme on n'a pas de l'eau à la maison. Je cherchais de l'eau ici pour boire.
Et donc là, tu as ton pick-up qui est rempli de barils.
Oui.
De 25 litres. Et tu vas tous les remplir?
Ah oui. J'y fais 2 fois par semaine.
que cette eau-là, nous utilisons beaucoup à la maison pour boire, pour faire manger. 25 litres, ça, ici, ça coûte 15 centimes.
Et à qui tu la payes alors? Parce que là, il n'y a personne.
Oui, le gars qui est dans, dans la voiture.
Ok, donc il y a un monsieur qui est assis dans un pick-up juste à côté de ton propre pick-up. Ouais. Et donc, ce monsieur, il reste là toute la journée et il compte le nombre de barils.
De barils qui sortent. Là, elle travaille pour un projet qui s'appelle Agua Brava. Agua Brava, c'est le projet qui installe de l'eau ici. Ou même à Saint-Philippe, qui fait décennaliser de l'eau.
Ça appartient pas à l'État?
Non, c'est un entreprise privée.
D'accord. Ok, donc l'eau des robinets à la pension, elle vient d'où?
L'eau de robinet, c'est des camions citernes de 11 tonnes qui ont mené de l'eau de Saint-Philippe pour vendre ici.
Et 11 tonnes, ça dure combien de temps?
11 tonnes, quand il y a des clients, ça fait une semaine.
Une semaine
une
seulement?
Une semaine. Tu sais, des fois, il y a des gens qui passent un quart d'heure dans la douche. Ça va vite.
On parlait de l'osée, mais il y a aussi une autre question qui se pose ici, c'est l'électricité.
L'autre problème ici dans le village, c'est l'électricité. Ici, dans le village, il y a des gens qui n'ont pas travaillé avec le tourisme. Ils utilisent des bougies, ou sinon du pétrole pour la lumière.
Tout le monde n'a pas les moyens.
Oui, c'est ça. Le problème, c'est ça. Il n'y a pas tout le monde qui a de mêmes conditions pour mettre des panneaux solaires et des batteries. Ça coûte quand même cher pour une personne qui n'a pas de travail. Nous, ici, dans le village, quand même, la vie, c'est très difficile. Mais le problème, plus, c'est de l'eau. Qu'il n'a pas de l'eau. L'eau, ça coûte plus cher que les choses à manger.
Bon, je vais te laisser terminer et je vais aller continuer ma balade. Pour aller à Banguera, du coup, je redescends.
Même ici, d'Yvon.
Ah, je peux passer.
Il y a un petit chemin qui descend là.
Oh.
Comme ça, tu vas prendre une douche de poussière.
Je vais prendre une douche de poussière, c'est ça. Bon, bon courage,
voilà,
à tout à l'heure.
Merci, à tout à l'heure.
Hein. À tout à l'heure.
À Chad Escalderas, il semble donc plus facile de prendre une douche de poussière que d'eau. Véritable luxe et privilège alloué aux 4000 touristes de passage chaque année dans les 10 pensions de la Caldeira. Hortense, elle, a été accueillie dans celle de Sonia et Zé Silva, qu'on vient d'entendre. Zé, c'est le cousin d'Adriano, le chauffeur qui nous a emmenés ici, mais aussi le frère d'Alcindo, dont nous a parlé Daniel, le touriste français. Car dans cette fratrie de 17 frères et sœurs, dont plus de la moitié est revenue vivre à Portela, le tourisme, c'est une affaire de famille. 5 d'entre eux sont guides, 3 ont une pension, tandis que la sœur, Isabelle, tient un bar du village, situé dans un conteneur. Alcindo Deus Pina Silva, 35 ans, est un peu le chef de cette tribu francophile et francophone. C'est aussi une figure de la Caldeira. Il tient une jolie pension située dans les hauteurs de Portela, à l'ombre de cette montagne aux forces telluriques et magnétiques.
J'ai jamais été fâché contre le volcan, j'ai jamais été énervé ou parlé mal, parce que, en fait, si tu veux, j'ai 36 ans, mais tout ce que je suis, que j'ai, ça compte pas, mais tout ce que je suis, c'est grâce au volcan, quoi. Quand j'étais petit, j'ai rêvé quand même de, surtout ce volcan, j'ai rêvé de la étudier. Et moi, mon rêve, c'était de devenir géologue à l'époque. Quand j'ai vécu l'éruption de 95, j'avais 11 ans, presque 12. Là, j'étais interdit de rapprocher de la lave. Ma mère, qui n'avait pas vécu encore une éruption, qui était en panique et tout, ça m'a fait peur. Mais j'étais sûr que je pouvais le toucher. Et du coup, c'est resté dans ma mémoire, dans ma tête, qu'il fallait qu'un jour, il faut vivre une éruption. Aussi, après l'éruption de 95, ça a augmenté encore plus cette envie, parce que j'avais vu des gens qui sont venus faire ces études. Et pour moi, je voulais être le premier de l'île à le faire. Mais malheureusement, 2 ans après, j'étais obligé de laisser tomber mes études et de revenir ici dans la Caldeira. Mais quand même, cet rêve, ça restait dans la tête, quoi.
Mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu rêvais de voir un volcan en éruption? Parce que c'est ce volcan, comme tu disais, il a tout pris. Il a dévasté les 2 villages de Portela, de Banguera. Donc ça a été très dur pour les gens. Et en même temps, toi, tu l'attendais.
j'attendais pas parce que il y a eu en fait entre 1887 et 51, il y a eu presque 70 ans d'écart, et entre 51 et 95, près de 44 ans d'écart. Moi, j'attendais pas aussi tôt. Quand tu vois une éruption en vrai, parce que là, on le voit, tout le monde a déjà vu ça à la télé quelque part, mais en vrai. Quand tu le vois, que tu le vis, c'est quelque chose de différent. Et moi, le fait d'être ici, je voyais, il y avait des gens qui arrivaient, qui, même encore, il y a des gens qui disent, mais vous n'avez pas peur. Mais peur de quoi? Tout ce que j'avais, que je rêvais de faire, je l'ai fait pendant cette éruption. On a touché la lave chaude, on a marché sur la lave, on a monté le cratère. J'avais l'impression d'être sur un animal qui s'endormait sur le ventre, mais qui digérait son aliment, quoi. Tu sentais la terre qui bougeait, tu avais des gens qui marchaient devant toi, tu voyais que les gens ils bougeaient. Ça, c'est quelque chose, c'est une sensation que tu peux pas expliquer, quoi.
Et donc, tu es pas parti, toi, tu as pas évacué, tu es resté dans la caldeira pendant toute la durée de l'éruption, à partir du 23 novembre jusqu'à la fin.
Et malheureusement, je ne suis pas resté jusqu'à la fin, parce qu'à l'époque, j'étais responsable pour une agence de voyage ici, du coup, comme c'était la haute saison. Donc on avait plein des groupes qui arrivaient, et si tu veux, là, il y avait Laetitia qui venait d'arriver, ma compagne, donc, mais moi, j'avais plus envie de rien faire, quoi. La seule chose que je voulais, c'est de suivre chaque étape de l'éruption, l'évolution de l'éruption, quoi. Donc, juste pour te dire, un truc, j'ai maximum dormi 3 nuits de suite en dehors de la caldeira pendant l'éruption. Mais après, au bout de 2 mois, j'ai vu quand même qu'il fallait reprendre le travail parce que j'avais tout perdu, donc il fallait relancer une nouvelle vie. Et moi, je dis, quand je suis en dehors de la caldeira, si je suis présent par la bordera qui est presque au même niveau, ça va. Mais si je descends au bord de la mer, je me sens, dans mon dos, je me sens un vide total. Menacé pour quelque chose que je ne sais pas, quoi.
Mais t'as besoin de sentir la présence du grand Pico, du grand homme.
Je peux te dire que même en plein noir, en fermant les yeux et tout, j'y sais, sans le regarder, j'y sais partout. Et je sens cette présence en permanence. Je vois dans ma pensée, il y a l'ombre du volcan à côté, quoi. Et moi, je ne vois pas faire quelque chose loin de cette volcan, quoi.
Alcindo, lui, n'est jamais parti. Il vivait dans une cabane avec des amis, parce que lui, il voulait vraiment pas partir, alors que l'armée demandait d'évacuer la caldeira. Moi, bien sûr, je suis partie. J'étais chez ma belle-mère à Monti Grande, dans un autre village. Je m'appelle Laetitia, je suis française. Plus précisément, je suis du Lot-et-Garonne. Je pense que ça s'entend à mon accent. Ça fait maintenant 5 ans que je vis dans la caldeira, dans ce petit cratère. Et avec mon amie qui est caverdienne, nous tenons une pension. Et 2 mois après mon arrivée, le volcan est entré en éruption. Alors Alcino, lui, il a vécu ça avec philosophie, parce que je pense que quand on est ici, on est obligé d'avoir un peu ce détachement et être dans l'acceptation qu'un jour, on perde tout. Moi, en tant que bonne Française, voilà, on est matérialiste sans l'être trop, mais quand même, on est surtout à une maison, on est très, très attachés. Donc j'étais dépitée, même si c'était pas la mienne, j'étais vraiment triste. Et puis c'est un état de catastrophe, parce que tout est enseveli, c'est pas juste une maison, c'est un village entier. Tous les gens qui avaient des souvenirs, les lieux de leurs souvenirs ont été ensevelis, donc c'est quand même quelque chose de très fort. On perd, peut-être pas une partie de sa vie, mais quand même, il y a une partie qui est engloutie. Et très rapidement, le volcan s'est arrêté en février. On a eu la chance que mon beau-père donne à son fils un beau morceau de terrain. Ça nous a permis de reconstruire sur la terre, sur le sol, et pas sur la lave. Et on a commencé à reconstruire en juin.
Mesdemoiselles, je me suis régalée. Je viens voir le lieu du crime, la cuisine. Laetitia.
Oui.
Une belle cuisine avec 3 jeunes femmes de la caldeira qui t'aident. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces bassines?
Les papayes.
Les papayes?
Elles ont préparé 30 kilos de papayes. Alors, viens voir.
Là, c'est la réserve.
Oui.
Donc, il y a les bocaux de figues, il y a les légumes, il y a les carottes.
De la caldeira.
De la caldeira. Les oignons aussi, ça vient de la caldeira.
Oui. Alors, les oignons, un peu plus loin, mais de Fogo quand même.
Et ça, c'est quoi, le café,
non? Non, ça, c'est du raisin sec qu'on a fait.
Et qui vient
on a des raisins, on a des vignes avec Alcindo près du volcan. tous ces champs qui donnent plein de choses, qui sont très fertiles, c'est grâce à la terre volcanique.
C'est
donc
ça.
À la fois, c'est terrible parce qu'il peut tout reprendre, mais en attendant, il donne beaucoup. Donc, il faut savoir profiter. Et puis, on ne sait pas jusqu'à quand on est là, donc profitons. Ouais.
Et profiter dans la caldeira, ça veut dire aussi exploiter les rares terres qui n'ont pas été recouvertes par la lave. Ici, chacun a sa petite parcelle et fait pousser vignes, mais aussi fruits et légumes. Sur l'autre flanc de la falaise, la bordeira, bien plus bas, on trouve même des champs de manguiers, de cacaotiers ou caféiers. Un petit paradis, on vous dit. Tout de suite, ce sont les artistes capverdiens originaires de Fogo, Noïsa et Michel Montron sur RFI. Cobota carputi, subi bucus cusă, zima tiram rufat, răge ciombu cambă, te cigana purgato. Minca di burroda, chi fări di buca saju, puta mă refrontadu, cu mina boca al stangu, patu mă bu pinghinha, che gherde bu disgrasa, marra mă cu di șema, uba fa cu cacarata. Ia minina, ia menina, ia menina, butoleira está para animar. Ia menina, ia menina, butoleira está para animar. Ai coxa de Espanha, a la pé de patucina, cima cabra sijar, na soco vento leste, a la boca pindrar, de paca atravessar, focinho de menta largo. Nem cabal de montina. Coitado sem capricho, mente estonca tem troco. Bujão de pé safado, canta certa fogueira. Sem classe, sem postura, sem fama e sem pateco. Sim, senhor pedigalo, cruz credo, levo sujo. E a menina, e a menina, o toleira está para demais.
La vaisselle sèche au soleil.
Sèche au soleil.
Sur le rebord de la fenêtre.
Ah oui, oui.
Et tu fais ta cuisine, Carole, face au Grand Picot.
Tout à fait. Ça inspire.
On est toujours au Cap-Vert, sur l'île de Fogo, là où le volcan n'est jamais très loin. Dans la pension cette fois de Carole, José et leur petit garçon de 3 ans, dans un lieu étonnant, entièrement recouvert de roches basaltiques et de sculptures de visages, œuvre d'un artiste local surnommé Tarzan. Carole, elle, est française et elle a rencontré son mari José alors qu'elle randonnait à Fogo.
Alors je suis venue par amour, ce qui est une excellente raison. Mais elle n'est pas la seule, sinon au bout de 6 mois, on rentre chez soi. Il faut vraiment être convaincu personnellement de pourquoi on a fait le choix de quitter sa vie matériellement confortable en France pour venir s'installer ici à Chadas Calderas. Le paysage est quand même très particulier, c'est très minéral. Le mode de vie pour le coup est encore plus radical. Nous sommes à 1700 mètres, perchés en montagne, il n'y a pas de réseau d'électricité, pas de réseau d'eau, une vie qui demande beaucoup de temps pour effectuer les tâches ménagères, les courses, une vie radicalement différente. Je suis agronome de formation et je travaillais dans le domaine de l'environnement, j'ai appris énormément de choses, mais il me manquait avec le temps certains aspects de la vie, le fait de pouvoir vivre dehors, le fait de vivre au jour le jour dans le temps présent et d'être vraiment ancré dans ce temps-là, quoi. Et donc j'ai fait le choix de venir m'installer avec un aller simple, cette fois non-retour, début décembre 2014, soit quelques jours après l'éruption volcanique. Alors le comité d'accueil était un peu spécial et un peu rude, mais je suis quand même arrivée avec mon aller simple en décembre 2014 et j'ai vu le volcan en éruption. Et nous avons eu beaucoup de chance, nous faisons partie des rares personnes à avoir conservé notre maison.
Donc le paysage a complètement changé. Les quelques repères que j'avais aussi d'avant ont complètement changé. Donc quand je suis venue ici, j'ai eu une petite appréhension sur ma capacité d'adaptation en me disant est-ce que avec toutes ces grandes coulées de lave, je vais pouvoir faire abstraction plus ou moins et ne pas voir ce côté noir minéral et au contraire voir la richesse du lieu. Et avec le temps, ça s'est bien passé.
Qu'est-ce qui est le plus dur du coup ici ?
Alors, tout est question de tempérament. Pour une personne qui va avoir besoin de trouver un centre commercial à proximité ou des loisirs à proximité, va se sentir très mal et ne pourra pas vivre ici, bien sûr. Par contre, sur place, il n'y a pas de crèche. Ce qu'on peut trouver, bien sûr, en ville, les parents se débrouillent, soit eux-mêmes, soit les voisins, éventuellement les grands-parents. Et d'ailleurs, certains parents, temporairement, peuvent décider de confier un enfant chez un grand-parent dans un autre village, quelques années, pour ensuite le récupérer. Donc il y a, les liens familiaux sont paradoxalement très forts, mais géographiquement, parfois très distendus.
Est-ce que tu sais combien il y a d'enfants ici dans la caldeira ?
C'est difficile à estimer. Effectivement, avant l'éruption, il y avait 1500 personnes à peu près. Maintenant, je dirais 400-500 personnes. Je sais qu'il y a 36 enfants scolarisés à l'école primaire, donc sur 4 niveaux.
Et donc, suite à l'éruption de 2014, comment ça s'est passé, en fait, à ce moment-là ?
Alors, l'école a été détruite complètement. Il n'y avait plus d'école, d'ailleurs, possible pour les enfants jusqu'à 2 ans après l'éruption. Ils ne pouvaient plus être scolarisés ici. Donc, ils étaient scolarisés dans des villages plus bas, à 1 heure de route, à peu près. Et heureusement, la mairie a pu louer une maison qui restait intacte et a pu réouvrir l'école primaire. Et ça, c'est un point très positif pour la caldeira. Ça permet de garder les enfants au village. Et ça apporte une joie de vivre qu'on entend tous les jours au moment de la récréation, d'entendre les enfants s'égayer dans cet univers d'apparence hostile. La vie est partout et la vie l'emporte, c'est magique.
Hola. Bon dia.
Dans l'école de Portela, située à deux pas de chez Carole, deux maîtresses font donc la classe, dans une ancienne maison à l'équipement très sommaire et où le terrain de foot, en terre noire, sert de cours de récréation aux enfants. L'école, c'est un lieu essentiel pour maintenir la vie et les habitants ici. Danilo Fonch, artiste, un brin à nard et ancien instituteur de 55 ans, ne dira pas le contraire.
Je suis né ici en 1964, cent ans très dur, je crois, parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route. Nous sommes ici, un pays abandonné pour le gouvernement portugais. Et mon père a pensé, c'est mieux qu'il va s'agrandir à Mousteir. Là, il peut aller à l'école, comme les autres enfants, parce qu'ici, il n'a pas d'opportunité. Il a pensé une chose très mauvaise pour moi, quitter de la maman avec ma maman, pour quitter cette habitude. Peut-être mon père n'a pas pensé vraiment à moi, mais dans l'opportunité. Je laissais cette place.
À quel âge ?
À 8 mois.
Et quand vous étiez à Mousteiros, vous étiez hébergé par quelqu'un de votre famille ?
Non, ce n'est pas ma famille, mais c'est quelqu'un de très, très ami, c'est ma marraine. Mais après, j'ai resté là, comme le fils de ma marraine.
Et vous êtes revenu à quel âge ici ?
Et à 8 ans, je peux rencontrer avec ma place et ma famille, mon père. À 8 ans, je peux savoir qu'ici, c'est ma place. Après ces temps-là, je pense toujours quand je peux retourner ici pour rester tout le temps. Je pense toujours à ces moments pour habiter, vivre et mourir dans cette place. Mais il faut étudier, il faut continuer l'école. Alors, il faut aller à Saint-Philippe où là, des années, on peut étudier des années. Après ce moment, il faut aller à Praia. J'ai fait tout le lycée à Praia. Il n'y a pas d'autres, mais peut-être à Lisbonne. Mais mon père n'a pas l'argent pour continuer cette étude. Même je n'ai pas la volonté d'étudier et laisser ma place. Alors, j'ai fait un cours à Praia, un cours des professeurs, pour revenir et être un pays stable ici en Champ de Scaldir. C'est ici notre nationalité. Quand on parle, ma nation c'est Cap-Vert, je parle exactement de cette place.
de Chadas Caldera.
Je ne parle pas de Saint-Antoine, je parle de Santiago, je ne parle pas de notre île. Je sais que les autres îles ont fait part des cavernes. Mais quand je parle cavernes, ma nation, c'est ici. Parce que ici, c'est ma nation. C'est la relation que j'avais avec la terre et qui se constitue en une chose très forte. Je crois que c'est pour ça. Même après l'éruption de 1995, je suis revenu avec l'intention de rester, et même avec toutes les difficultés du monde, je dois rester ici parce que je dois. C'est comme un destin que je lutte contre cette force de la nature, par exemple. Alors je lutte pour vivre ici.
On est au pied de la Bordera, sur la piste. On quitte le village de Portela. Et là, au milieu de la lave, il y a un figuier.
Ouais, c'était un pied de figuier, là. Déjà souffrir deux éruptions. Tu sais, ça brûlait la plante, mais la racine, ça restait vert. Et après, dans les roches volcaniques, les plantes, ça repoussait.
Il est énorme. C'est-à-dire que là, on le voit.
Si on voit la différence. Ça, c'est la couleur de lave de 2014 qui vient là. Et l'autre, c'est de 95.
Et au milieu de tout ça, il y a un énorme îlot de verdure, et c'est ce figuier qui a déjà énormément repoussé et qui a survécu. Ça illustre parfaitement la résistance des habitants de la caldeira.
Oui, c'est pareil, c'est comme les gens de la caldeira. Moi, j'ai reconstruit avec mes frères. C'était tout au début. On était les premières 20 personnes à revenir, à s'installer. On habitait en tente. On a passé un mois à casser la lave dans une maison pour pouvoir s'installer. Quand il pleuvait, c'était la catastrophe. Quand il y avait du vent, c'était quand il faisait froid. Ça nous a duré plus d'un an de travail. Donc.
Et à quel moment, parce qu'on m'a raconté que l'armée, ou en tout cas la police, a voulu te déloger. C'était à quel moment? C'est quand tu as commencé à reconstruire ta maison?
Écoute, moi, ça, c'était quelque chose... si tu veux, depuis le début, ça n'a pas très bien passé. Parce que, si tu veux, l'armée est arrivée 48 heures après l'éruption, avec des fusils pour évacuer tout le monde. Pas de voiture, pas de main d'œuvre pour aider la population. Tu t'arrives avec un fusil dans les bras pour dire, les gens, cassez-vous. Juste pour impressionner les gens. Je dis, mais écoute, le volcan m'a pas tué, mais si vous avez envie de me tuer, tuez-moi, parce que moi, je... Moi, j'attendais l'aide des autorités. Si les armées venaient, c'est pour aider les gens à évacuer, à créer le moyen de passage, à transporter les affaires de la maison et tout ça. C'était pas pour venir avec un fusil.
Ici, c'est en place, comment on dit, Far West. Nous sommes en Far West. On peut construire. Si tu veux construire, tu peux construire. Parce que tous les gens peuvent construire ici. C'est une preuve qu'il n'y a pas de contrôle. Le maître du territoire ici, du municipe de Santa Catarina, avant, il dit, je n'ai pas contrôle sur cette gens, sur cette construction. Mais c'est vrai. Il n'a pas rien de contrôle ici.
Oui, parce que ce qu'on m'a dit, c'est que depuis l'éruption de 2014, les permis de construire sont gelés. Normalement, on n'a pas le droit de construire. Alors qu'en fait, on voit bien que Portela, c'est un champ de construction.
Tous les jours, où on est à la construction, nous sommes en reconstruction. Tous les gens ont construit sans l'autorisation des cambres, des maires.
De la mairie.
Alors c'est ça que je dis, nous sommes abandonnés, nous sommes désorganisés à cause de la présence, il n'y a pas la présence de les autorités ici.
Maintenant, il y a plein de maisons qui ont été reconstruites sur la lave. Donc la mairie, ils sont contre. Ils veulent pas que, parce que nous, ils nous considèrent comme des clandestins. Ils veulent tout récupérer parce qu'on n'a pas de cadastre, en fait. Après l'éruption, ils ont déclaré la lave comme un patrimoine naturel. Que les gens, ils n'avaient pas le droit de le casser. Mais si tu veux, on n'a pas accepté. Nous, on est nés, on est grandis, toute notre vie, elle est là. Donc tu ne peux pas nous déménager comme ça, juste parce que, pour te dire la vérité, on ne comprend pas.
parce qu'il y a une loi au Cap-Vert qui dit qu'à partir du moment que tu exploites un terrain pendant 10 ans, et que pendant 10 ans, jamais personne ne te réclamait quel que ce soit, à partir de 10 ans, tu as le droit de devenir titulaire de ce terrain. Et nous, ça fait 102 ans qu'on habite ici, on n'a toujours pas cette... Juste parce qu'il y a cet intérêt touristique. Donc ils veulent le prendre et le vendre à des grandes chaînes touristiques internationales qui viennent exploiter cette potentiel qu'il y a ici. Ils vont faire venir comme ils font à Salboa Vista, toute la production alimentaire, ça vient de l'étranger, la main-d'œuvre, ça vient de l'étranger, le transport, ça va être tout monopolisé. Après, ça ne va pas aider la Caldeira et l'île et le Cap-Vert à développer, quoi.
Il faut travailler pour les présents. Il y a beaucoup de priorités, l'école, le poste sanitaire, par exemple. Mais on ne pense pas à cette place. Mon rêve, c'est avoir une école d'art ici.
Votre rêve, Danilo, c'est qu'il y ait une école d'art ici, dans la Hacha.
Pour la sculpture, la peinture, le dessin, et même pour des jardins. Tous les matériaux que nous avons ici, les pierres, nous avons beaucoup de pierres, des styles de pierres, pour faire les dessins, les jardins les plus jolis du monde.
Est-ce qu'on peut aller voir votre jardin ?
Oui.
Vous avez planté différentes sortes de fleurs directement dans le sol. Et vous avez surtout, ce qui est joli, c'est que vous les avez entourées de pierres. Les différentes roches volcaniques forment des dessins géométriques autour des plantes.
Oui, c'est ça. C'est, comme on dit, je ne sais pas, il manquait beaucoup de mots en français. Aproveitar, qui prend les choses qui sont insignifiantes, par exemple les pierres, qui sont très insignifiantes, et tourner une chose très intéressante.
Ouais. Vous donnez de la valeur à quelque chose qui, apparemment, chose, voilà, n'en a pas.
Par exemple, c'est venu de l'éruption, ce matériel. Alors j'ai pris un pour faire la sculpture.
Ouais, au milieu de votre jardin, il y a aussi une sculpture. En fait, c'est un bidon, ça doit être un ancien bidon d'essence qui est complètement rouillé. Et vous en êtes servi pour faire une sculpture.
C'est une dédication pour les morts. Beaucoup de gens qui sont morts ici, qui ont construit ça. Nous sommes les reconstructeurs. Mais nous avons le premier constructeur, notre...
Vos ancêtres.
Oui, voilà. Ils sont avec nous. Son courage est avec nous. Je crois que les morts ont dit, nous, il faut rester ici. C'est pour ça qu'ici j'ai fait ce jardin pour montrer l'espoir dans le peuple. Il faut, si nous avons la volonté de vivre ici, peut-être on peut vivre.
À Fogo, si la lave a recouvert les maisons de la Caldeira, elle n'a pas englouti la mémoire et ce formidable élan de vie de tous ses habitants, accrochés à ce volcan envers et contre tous. Après l'éruption de 2014, ce sont d'ailleurs eux qui, à la main, ont déblayé la lave pour créer une piste, un accès à la Caldeira. La route officielle, elle, est encore en travaux. À Portela, dans la Casa Ramiro, bar épicerie où l'on sert le vin local, tout en jouant pour les voyageurs la musique de Fogo, le Talayabash, notre voyage à nous s'achève. Merci à Danilo, Alcindo, Laetitia, Zé, Sonia, Cisa et Rosie, Adriano, Daniel, José et Carole et tous les voyageurs croisés dans la Caldeira. Un grand merci aussi à l'ami Jean-Yves Loud, écrivain voyageur français et fin connaisseur du Cap-Vert et de Fogo, pour ses précieux conseils. Hortense Vol, Laura Larry, Céline Develay-Mazurel, on vous dit à la semaine prochaine pour d'autres voyages. Bonne semaine à tous, à l'écoute de RFI.